Ah, viens, Siane. La musique était interdite à l'exception de l'hymne national que des haut-parleurs diffusaient au lever et au coucher du soleil. La mélodie en était d'une indigence absolue, mais comme tout le monde, je l'écoutais avec extase. Dans le mauvais voyage, où je m'étais embarquée par imprudence, elle était l'unique signal du passage du temps. De l'autre côté du Mékong, il y avait la Thaïlande. Quand le vent soufflait vers le Laos, on entendait des bribes de crin-crin local. Cela paraissait fantasmagorique, un pays où il y avait de la musique du matin au soir. Le Mékong était le Styx. Vientiane était du côté des enfers. La voix intérieure grinçait « Tu es une psychopompe ratée. Traverser le fleuve est inenvisageable. Tu vas mourir. » Seuls les oiseaux passaient le Mékong et encore uniquement ceux qui volaient loin. Le fleuve était d'une largeur effarante. J'avais une amie qui venait me voir dans ma chambre. Elle s'appelait Vien Keo et avait 30 ans, ce qui ne me dérangeait pas car je n'avais plus d'âge. Elle disait qu'elle me met pour mes sourcils. Elle les trouvait beaux. Qu'on puisse voir en moi de la beauté me subjuguait. Vien Keo signifiait « émeraude ». Elle s'habillait toujours en vert. Elle me parlait avec douceur de toutes petites choses. Je lui en ai une gratitude sans borne. Une nuit, je sus que la mort était là. Elle s'annonça par un froid inimaginable. Le thermomètre indiquait une température de 30 degrés. C'était donc la faucheuse. Il survint un phénomène hallucinant. Mon corps quitta mon âme. Le cheval de Troie recracha le peu qu'il contenait et alla manger. Mon âme, les Grecs, assista au spectacle avec des cris d'indignation. Les Grecs déclarèrent que ce n'était pas le projet et qu'on ne s'était pas donné tant de mal pour en arriver là. Le cheval acceptait l'avoinée tout en dévorant la sienne. Ce fut le début d'une autre longue maladie. Le cheval de bois ne digérait rien. Il fallut réapprendre à assimiler la nourriture. Cela prit un temps infini avec des souffrances intolérables. Les Grecs hurlaient de rage. Sans remarquer le prodige, personne n'était mort. Plus exactement, le cheval de Troie avait fait œuvre orphique. Il avait inventé une méthode aussi étonnante qu'efficace pour garantir une forme de survie, tablant sur l'avenir. Un jour, l'âme se calmerait et reviendrait. Aussi longtemps qu'elle séjournerait hors de sa carcasse, elle ne mériterait pas de s'appeler autrement les Grecs. Une engeance. Virgile m'avait averti, il fallait s'en méfier. Le cheval de Troie taillait bravement la route, refusant les cadeaux des Grecs, bien placé qu'il était pour savoir leur toxicité. Que d'aucuns aspirent à l'état de pur esprit me sidéra. Je menais deux vies distinctes, celle de mon corps et celle de mon âme. Celle de mon corps n'était pas fameuse, mais évoluait courageusement vers une guérison lente. Celle de mon âme ne comportait que grincement et imprécation, mépris grec contre le métier de vivre. Qui a vocation à devenir oiseau a du mal à être cheval de Troie. L'Iliade m'eût fait gagner du temps en imaginant un oiseau de bois à la place du canasson. Par ailleurs, ces deux espèces ne sont pas absolument étrangères l'une à l'autre. La mythologie me proposait Pégase comme chaînon manquant. Je procédai à tâtons. Arrivé à Bruxelles, à 17 ans, je commençais à écrire, sans intention aucune. Je venais de lire Rilke, qui m'indiquait un chemin, sinon à ma portée, au moins autorisé. Un cheval de Troie qui écrit, on se doute que cela ne donne pas grand-chose. C'était si difficile que j'aurais voulu être un percheron de Troie, pour être capable de tirer une charrue aussi lourde. Le miracle, c'est que je n'abandonnais pas la partie. Ces années de jeunesse furent effroyables. À l'université, mes tentatives d'intégration ne me valurent que sarcasme. Les autres étudiants devaient sentir que quelque chose clochait. La solitude m'exposait à l'hostilité constante des Grecs. Affrontée chaque jour et chaque nuit, la malveillance de tant d'instances me marqua. Je gardais le cap. J'avais l'instinct de rejoindre le Japon de mon enfance, persuadée que le salut m'y attendait. Quand j'eus fini mes études, je retournai au pays du soleil levant. J'avais 21 ans. Le cheval de Troie était mal en point. Tokyo n'était pas Shukugawa. Et pourtant, mon intuition avait vu juste. Au bout de quelques semaines, je sentis que les Grecs perdaient de leur virulence et tentaient un rapprochement. Je me mis à écrire beaucoup plus fort. Il ne s'agissait plus de creuser un sillon dans la terre, mais de tenter de griffer le ciel à la manière du skywriter. Plus je me livrais à cette gymnastique, plus les Grecs réintégraient le cheval de Troie. Une nuit de printemps, je m'éveillai vers 2 heures. Ce qui m'avait tiré du sommeil fut le constat d'un miracle. Mes jambes étaient chaudes. Je n'avais plus eu chaud aux jambes depuis l'âge de 12 ans. Cela faisait près de 10 années que je me traînais sur 2 échasses glacées, quelle que fût la température extérieure. La sensation fut à ce point sublime que je pleurais de joie. Assise dans le lit, je ne pus m'arrêter de caresser ses jambes brûlantes jusqu'au bout des orteils. Au-delà du plaisir, je compris la signification d'un tel phénomène. Mon âme tout entière résidait désormais dans mon corps. Ce n'étaient plus les Grecs et le cheval de Troie. Eurydice avait enfin accepté le stratagème d'Orphée et lui en témoignait de la gratitude. Les planètes s'alignèrent aussitôt. Je redécouvris cette grâce inégalable qui s'appelle santé. Ce nom désigne un corps et une âme qui s'entendent bien. Une grande énergie s'empara de moi et contamina les divers pans de mon existence, à commencer par l'écriture. Il n'y avait pas plus psychopompe que cet exercice. J'étais la Pénélope de ma propre résurrection. Il me fallait relancer le processus chaque matin. Mais je compris que, comme n'importe quelle difficulté qui se respecte, c'était une faveur. La palingénésie devint une hygiène quotidienne et le resta. 10 années de survie laissent des séquelles. Celle-ci, entre autres, la récurrence matinale de la peur de ne pas trouver le salut. Un miracle n'est jamais acquis. Il faut parcourir inlassablement les étapes, identiques, avec la même terreur fondée. Le danger est si grand de perdre la technique du vol. À chaque aube, je me jette dans le vide avec le fol espoir de ne pas avoir désappris. Les miracles sont presque toujours à double tranchant. Lazare sentait mauvais, l'aveugle guéri constatait la laideur des choses. Quant à moi, je sus très vite qu'il y avait un prix à payer. L'angoisse permanente de retomber dans l'abîme. D'où la nécessité ininterrompue de mettre les bouchées doubles, les béquilles doubles. J'étais bel et bien devenu oiseau. Lequel ? Trop d'oiseaux. L'engoulevent oreillard demeurait mon totem intime. Mais je contenais aussi le cormoran, la chouette, le bruant et la buse et tant d'autres. Plus exactement, ce sont eux qui me contenaient. Désormais, écrire, ce serait voler. Je ne suggère pas que me lire soit un exercice d'altitude. Je sais que quand j'atteins mon écriture, je vole. Mon rêve prit sens. Oui, j'avais découvert la gymnastique qui permettait de s'envoler. Il s'agit de se positionner d'une manière particulière à l'intérieur de soi. De saisir le bon angle et la juste distance et de se précipiter. Se précipiter au sens propre. Se lancer tête la première dans le précipice. Voir le sol se rapprocher et battre des ailes, non pas par fantaisie, mais afin de ne pas s'écraser. Cocteau, dans la difficulté d'être, définit ce qu'il nomme la ligne de l'écrivain. L'art précis avec lequel, sur la corde raide de l'écriture, il se rattrape au moment de chuter. Le style, c'est exactement cela. L'ensemble des techniques que développe chaque auteur véritable pour empêcher sa phrase de sombrer. C'est aussi pour cela que je ne crois pas aux ratures. Dans mon cas, tomber, c'est mourir. S'il m'arrive parfois de raturer, c'est sous l'effet d'un faux battement d'aile. J'ai pu me rattraper à une branche au passage. Si je m'effondre, c'est que le manuscrit est raté. La résurrection s'effectuera dans un manuscrit ultérieur, pas dans le texte qui a donné lieu à ma chute. Quand Rilke dit que l'écriture doit être une question de vie ou de mort, je n'y vois aucune métaphore.